Un quart de siècle après son accident mortel le 1er mai 1994, le mythe Ayrton Senna perdure. Secret, intense, parfois mystique, ce seigneur de la Formule 1 a autant marqué les esprits pour son talent surnaturel que par sa personnalité hors norme. Pendant près de 15 ans, le journaliste Pierre Van Vliet a couvert les exploits du pilote brésilien, mais il a également été le témoin de sa vie hors des circuits. Aujourd'hui, il retrace l'itinéraire du triple champion du monde dans une série de podcasts qui vous emmène de Sao Paulo à Imola en passant par Monaco et Suzuka. Dans les pas d'Ayrton Senna, un récit de Pierre Van Vliet et Andy David, voix off Marie Lizac, son Romain Rivreau. Épisode 1 Sao Paulo, insouciant de jeunesse.
Une petite rue dans le quartier de Santana, au nord de Sao Paulo. Maison basse, jardin arboré, voisin souriant, le silence de ce faubourg aisé est perturbé par un ronronnement. Un gamin aux grandes oreilles file sur une machine propulsée par un moteur de tondeuse à gazon. Ce petit kart a été fabriqué par son père, il a remis l'engin au garçonnet le jour de son 4e anniversaire. En cette année 1964, les adultes ne parlent que du coup d'état militaire qui a renversé le président João Goulart. Le marmot, lui, ne pense qu'à filer au volant de son kart dans les rues tranquilles. Il est surnommé Beko par ses parents Milton et Naide. Son acte de naissance précise qu'il est né le 21 mars 1960 à 2h35 du matin. Il s'appelle Ayrton da Silva Senna. Pierre Van Vliet, cet enfant qui connaîtra la gloire sous le nom d'Ayrton Senna n'est pas un gamin des favelas.
Non, bien sûr, parce qu'au Brésil, surtout au siècle dernier, hein, les années 60, il n'y a pas de classe moyenne, quoi. On est soit vraiment privilégié, soit on est dans la misère. Et tous les pilotes brésiliens qu'on a vus de ce côté-ci de l'Atlantique, en tout cas au siècle dernier, c'est tous forcément des enfants de bonnes familles. Et Ayrton ne fait pas exception. Et donc à Sao Paulo, dans sa ville natale, il a une enfance vraiment vraiment heureuse et favorisée, sachant que la famille est installée. Le papa d'Ayrton, Milton, Senior Milton, comme on dit, est un industriel qui a une usine. Ils font de la construction métallique, des machines-outils, etc. Mais il y a genre 1000 ouvriers. Donc, c'est pas le petit artisan du coin. C'est vraiment industriel. C'est une grosse échelle. Donc, ça veut dire forcément un train de vie important et un niveau social non négligeable. Mais il y a aussi une éducation assez stricte. Donanet, la maman d'Ayrton, c'est quelqu'un de très à cheval sur les principes. Ils sont très catholiques comme la plupart des Brésiliens, mais enfin on transmet quand même des valeurs. Il y a une rigueur dans l'éducation, donc c'est pas non plus la jeunesse brésilienne dorée comme on peut parfois en avoir l'image ici. C'est pas non plus, surtout à cette époque-là, je pense c'était un peu différent. Donc c'est pas question de fumer des pétards sur les plages d'Ipanema. Non, c'était assez strict, mais une enfance heureuse et voilà, paisible dans un environnement très, très, très agréable.
Quel genre d'enfant est le petit Ayrton Senna?
Alors, il est timide, semble-t-il, hein. Moi, je l'ai pas connu enfant, mais il a toujours gardé cette réserve. Il était parfois presque un peu complexé par sa, ou en tout cas troublé parfois par l'attention qu'on lui portait. Mais il était, enfin, c'est ce que sa mère ou sa sœur, que je connais bien, me disent, il était un petit enfant timide, mais néanmoins déjà très déterminé, très très volontaire, voire compétiteur. Donc il y avait quand même déjà de la graine de Senna dans le petit Ayrton da Silva.
Il y a un petit kart offert pour ses 4 ans. C'est le début.
Oui, bien sûr, c'est le début. C'est un peu le pied à l'étrier, mais c'est anecdotique à l'époque. C'est un loisir d'enfant sage entre guillemets. Vu les activités du père da Silva, c'est assez facile de fabriquer un petit châssis de kart et d'y mettre un moteur de tondeuse à gazon ou d'autres choses. Et il a, voilà, à l'âge de 4-5 ans, il était déjà sur un kart. c'est vrai. Alors, c'était pas encore à Interlagos sur le cartodrome, hein. C'est plutôt sur un petit circuit municipal près de chez eux, à Santana, dans le parc à Nembe, je crois. Et, donc là, il commence à rouler, bon, il passe en compétition, enfin, disons, à l'échelon supérieur avec un vrai kart. Et sur un vrai circuit un peu plus tard à Interlagos.
Justement, dès qu'il a un moment, Ayrton traverse la ville pour se rendre là-bas, à Interlagos, le célèbre circuit brésilien. Sur ce terrain en pente, on trouve un autodrome et une piste de karting. Comment ça devient une obsession?
Oui, parce que c'est vrai que ça devient assez vite une obsession. Et c'est vrai que c'est traverser la ville, parce que eux habitent le nord de Sao Paulo, Santana, c'est pas entre l'aéroport et la ville, alors que Interlagos, c'est au sud. Donc, et traverser la ville, je peux vous dire qu'à Sao Paulo, c'est pas rien, parce que c'est quand même 20 millions d'habitants. Et il y a cette fameuse route là qui longe le Rio. Donc voilà, le petit Ayrton, hein, il est quand même, il y a déjà une forme d'ambition parce que il veut, voilà, il sait ce qu'il veut et ça lui plaît, donc il y va. Et alors il fait ses premières courses à Interlagos. La piste de kart, elle jouxte le grand circuit, hein, de Formule 1. Et il y a une de ses premières courses où il pleut, parce que il pleut quand même assez souvent dans cette région du Brésil. Et il était à côté de ses pompes, quoi. Il était vraiment vraiment pas bon. Et ça l'a vexé, ça l'a vraiment fait réfléchir. Et donc du coup, il attendait la pluie pour aller rouler, pour s'améliorer, quoi. Donc il y avait déjà cette volonté de perfection, d'excellence. Il roulait. Alors à ce moment-là, il roulait jusqu'à la tombée de la nuit. Il roulait non-stop. Et puis il est devenu, voilà, le roi de la pluie. Mais c'est à force de travail.
Persévérance.
Oui, oui, tout à fait.
Et à l'adolescence, les choses deviennent plus sérieuses avec de la compétition, avec des déplacements.
Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de Brésiliens de cet âge-là, hein, je dirais vers 15, 16, 17 ans. Bon, ben, le kart devient un sport avec le côté compétitif. Ayrton, assez rapidement, quand même, au niveau national, il est une référence dans les catégories d'âge. Et puis en senior, il est même champion en Sudam, donc à l'échelon du continent, enfin essentiellement avec des Argentins, peut-être quelques Colombiens qui pratiquent le kart également, mais ça veut dire effectivement quelques déplacements, quelques voyages, ça coûte de l'argent, hein, donc pas de miracle. C'est aussi parce qu'ils sont dans un contexte familial favorisé qu'il peut s'exprimer comme ça. Mais du coup, voilà, il y a ce talent qui apparaît bien bien clairement, il y a cette volonté affichée et cette ambition. Du coup, à ce moment-là, elle passe forcément par des voyages un peu plus lointains, c'est-à-dire traverser l'Atlantique, ce qui n'est pas une mince affaire.
Oui, c'est ça le moment important aussi, c'est que ses premiers succès le portent jusqu'en Europe. C'est là que tu l'as rencontré, en fait.
Oui, alors il commence en karting en 78 déjà. Le premier championnat du monde auquel il participe, c'est au Mans, d'ailleurs, c'est chez nous. Mais il était basé plutôt à Milan, hein, c'était l'usine DAP, les karts italiens, où il avait un équipier qui était vraiment la pointure de l'époque, Terry Fullerton, hein, un Irlandais, un bourru costaud, mais qui se laissait pas faire. Et donc c'était vraiment un étalon pour Ayrton. Et très vite quand même, il a été au niveau, voire plus rapide que Fullerton. Mais on sait qu'il a gardé effectivement la nostalgie de cette époque un peu bénie où c'est vraiment pratiquer le sport sans aucun enjeu, aucune véritable pression. Il y a encore une dimension ludique à ce moment-là, même si lui, il a cette obsession de la victoire et de la performance. Il a parfois tendance d'ailleurs à surconduire, à faire, bon, comme beaucoup de jeunes kartmen, hein, mais je me souviens effectivement de, il y a eu Le Mans, puis je crois qu'il y a eu Estoril en 79. Donc, il venait une fois par an, parfois en restant quelques semaines en Europe pour courir, en étant basé en Italie, mais en se déplaçant avec le team. Et donc, moi, je l'ai rencontré en 1980, quand il y a eu le championnat du monde à Nivelles, près de Bruxelles, où il y avait une piste de kart également à côté du circuit qui a accueilli deux grands prix. Et j'avais été frappé par sa flamboyance en piste, hein, son côté virevoltant et ce casque jaune, quoi. Ce casque jaune, il avait un espèce de cuir noir qui contrastait et on le voyait de loin, on voyait que lui. Alors même s'il gagnait pas, parce qu'en karting on sait qu'il y a des manches, il y a un système de, hein, de addition de résultats, etc. Et que si on rate une manche, ben on peut ne pas gagner. Alors qu'il tourne autour de tout le monde pendant tout le week-end. C'est pour ça qu'il a jamais été champion du monde en kart. À Nivelles, je me souviens, c'est Pieter de Bruijn, un Hollandais qui avait gagné, mais qui était l'ombre d'un Senna, quoi. Et d'ailleurs, la preuve, sa carrière après s'est arrêtée en Formule Forte, je crois. Il n'a pas été beaucoup plus loin. Alors que Senna, on avait tout de suite senti qu'il y avait là un futur champion.